Deutsche Welle. Droits et libertés.
Ma protection, c'est la large adhésion des masses en Mauritanie à ce combat que nous menons.
Biramda Abeid est parmi les militants les plus engagés contre l'esclavage en Mauritanie. La pratique est ancestrale, elle commence à être battue en brèche, mais son abolition restera une longue marche. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine. L'esclavage en Mauritanie, c'est une violation massive des droits humains que nous évoquons habituellement une fois par an dans ce magazine. Avec Biramda Abeid, nous allons revenir une fois de plus sur cette pratique qui, bien qu'interdite par la loi mauritanienne, continue à sévir. Biramda Abeid est président d'une association dénommée IRA Mauritanie ou Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, une association qui lutte donc contre l'esclavage et qui n'est toujours pas reconnue par les autorités mauritaniennes. Alors où en est-on aujourd'hui, en 2012, dans le combat contre l'esclavage?
L'amélioration que nous constatons, c'est dans le refus de l'esclavage. C'est parce que les mouvements anti-esclavagistes et les organisations anti-esclavagistes qui étaient des organisations d'élite, dont la méthode d'action était seulement la dénonciation par voie de presse. Avec IRA, maintenant, la lutte contre l'esclavage s'est transformée en lutte populaire. Donc, c'est maintenant beaucoup de masses populaires avec IRA qui font des meetings de protestation, des marches de protestation contre l'esclavage partout sur le territoire national, jusqu'à ce que les autorités ont été obligées de faire 4 procès en une année, l'année passée, à cause des protestations et de la lutte non violente.
Et donc, selon vous, c'est ce qui amène quand même peut-être la justice mauritanienne, comme elle l'a fait l'an passé, à condamner des personnes pour esclavage?
En effet, c'est ce qui a amené, nous, à IRA, avec l'affaire de Saïd et Yarg, les deux enfants détenus esclaves, par une famille dont El Hassine, dont le chef est un policier qui pratiquait, cette famille pratiquait l'esclavage sur ses deux enfants. Des enfants qu'on a libérés et qui sont encore avec nous jusqu'à maintenant, dont nous nous occupons de leur éducation, de leur réinsertion.
Est-ce que ce genre de procès, selon vous, a quand même un effet donc dissuasif? Est-ce que d'autres personnes ont peur maintenant de
se
retrouver dans la justice?
Oui, avec ce procès, des dizaines de milliers d'esclaves ont été libérés de l'esclavage.
Mais ces personnes qui sont libérées, elles font quoi? Est-ce qu'elles ne sont pas abandonnées à leur sort?
Oui, elles sont abandonnées à leur sort, mais elles étaient abandonnées à leur sort, car les esclaves en Mauritanie ne bénéficient de rien, d'aucun salaire, d'aucun soin. Ils ne sont pas enregistrés comme membres de la société dans l'état civil. Donc, maintenant, après leur libération, les esclaves, c'est beaucoup plus avantageux que les esclaves que leurs maîtres, même s'ils n'ont aucun soutien, car l'État refuse encore de soutenir les esclaves qui rompent le banc avec leurs maîtres, qui fuient leurs maîtres, ou qui témoignent contre leurs maîtres, ou qui approchent les organisations de défense des droits de l'homme. Donc, mais ces esclaves travaillaient chez leurs maîtres. Et maintenant, ils travaillent encore dans la société en contrepartie, certes, de salaires très maigres, mais quand même avec la liberté en plus.
Donc après ces libérations dont vous parlez, à combien estimez-vous aujourd'hui encore le nombre d'esclaves en Mauritanie?
Il n'y a pas encore de rupture véritable dans le nombre massif d'esclaves en Mauritanie. C'est pourquoi encore nous considérons que, après nos statistiques, un peu moins de 20% de la population mauritanienne reste des esclaves qui n'ont aucun droit et qui subissent tous les châtiments corporels, tous les châtiments inhumains, l'exploitation contraire aux lois mauritaniennes et aux conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie.
20% de la population mauritanienne, selon Biramda Abeid, cela fait en gros 500 000 personnes. Et de la population, justement, parlons-en. Un recensement a en effet débuté en Mauritanie en mai 2011. Il dresse contre lui les communautés noires du pays qui dénoncent un acte raciste et discriminatoire. Biramda Abeid n'est pas en reste, lui qui lutte non seulement contre l'esclavage, mais plus généralement aussi contre l'exclusion de la communauté négro-mauritanienne.
Ce recensement vise la dénégrification de la Mauritanie par d'autres voies qui ne sont pas les voies du génocide et de l'épuration ethnique qui ont été encore expérimentées par des officiers de l'armée, par des hommes politiques, des idéologues dont la majorité est encore au pouvoir à l'heure où je parle en Mauritanie. Donc ce recensement menace la mauritanité de beaucoup de Mauritaniens, de Haratin, de Pel, de Soninké, de Wolof et de Bambara. Et j'espère que c'est dans le droit des populations négro-mauritaniennes, des populations Haratin et des justes parmi les arabo-berbères de se dresser contre ce recensement.
Oui, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez là concrètement? Est-ce que c'est dans les questions qui sont posées aux gens pour le recensement? Qu'est-ce que vous jugez discriminatoire ou raciste ou...
Non, c'est dans la finalité d'abord. Dans la finalité, dans l'origine de ce recensement, c'est une tentative de reproduire par les chiffres et de faire passer par les chiffres et par les statistiques une majorité artificielle de la communauté dominante, parce que vous savez, tout le monde savent qu'en Mauritanie, l'argument par qui c'est légitime le pouvoir entre les mains des Arabes et Berbères, c'est un argument démographique qui a été avancé depuis toujours. Cet argument démographique est faux en ce sens que les Haratins, qui à eux seuls représentent plus de 50% de la population mauritanienne et qui sont catalogués arabes par la minorité dominante, ne sont pas du tout arabes. Et leur arabité n'est pour les groupes dominants qu'un moyen de noyer les négro-mauritaniens dans le nombre et aussi un moyen de rendre les Haratins invisibles. Donc, dans ce recensement, les structures administratives créées pour ce recensement sont créées sur des bases discriminatoires, sur des bases qui éloignent certaines populations, sur des bases qui condamnent d'avance les populations noires à prouver leur mauritanité.
À prouver de quelle manière?
À la prouver par des questions qu'on les pose. Par exemple, vous récitez combien de sourates du Coran? Par exemple, vous connaissez tel ou tel dignitaire arabo-berbère, tel ou tel marabout ou érudit arabo-berbère dans tel siècle de la vie de ce peuple, de la vie. Donc, c'est des questions qui sont totalement loin, très loin des procédures scientifiques, des statistiques que nous avons connues de partout dans le monde. Donc, c'est une manière seulement de fragmenter la population mauritanienne en races supérieures et en races inférieures, en races mauritaniennes avec toute sa légitimité et en étrangers qui sont tenus de prouver leur mauritanité en paria.
Mais sur les papiers en Mauritanie, passeport ou je ne sais pas, carte d'identité, il n'y a pas d'inscription indiquant, disons, de quelle ethnie, entre guillemets, vous êtes.
Donc, c'est là le retour en arrière. Donc, avec ce recensement, c'est ça maintenant le problème. Avec le recensement, nous sommes en train de réveiller les vieux démons.
La Mauritanie n'a pas l'exclusivité de l'esclavage. La pratique perdure à divers degrés dans toute la bande sahélo-saharienne. Des associations anti-esclavagistes y sont donc actives, comme Timidria au Niger, que Biram Da Abeid connaît bien.
Nous coopérons avec ces associations, avec aussi Temet au Mali. Et nous coopérons aussi avec les Soudanais. Parce qu'il est clair que dans toutes les communautés arabes, berbères, touaregs, qui sont dans des zones de frottement avec les populations noires africaines, cet esclavage persiste. Donc les Arabes et Touaregs du Mali, les Arabes et Touaregs du Niger, les Maures de Mauritanie, les Arabes du Soudan, tous continuent qui sont avec, en proximité dans les limites de frontières et de contact avec les populations noires, continuent à pratiquer cet esclavage. Donc c'est un esclavage de nature raciste et c'est un esclavage spécifique au peuple arabo-musulman. Car au sein des peuples arabo-musulmans, il n'y a pas encore une remise en cause scientifique, juridique, culturelle et religieuse des préjugés et des pratiques ancestrales inhumaines qui se faisaient contre les Noirs.
Et selon vous, dans toute cette région, disons, du Sahel, justement à la charnière entre monde arabe et monde noir, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que les populations vivent en harmonie, s'entendent ?
Il faut d'abord que la notion d'État intègre ces régions. Contrairement aux sédentaires noirs maliens qui ont accepté et intériorisé la notion d'État depuis l'arrivée, le passage de la colonisation, les tribus arabes, Touareg, Maure, de Mauritanie, du nord du Mali et de cette région n'ont pas encore eu la recevabilité qu'il faut pour l'état de droit, pour l'état, la notion d'état. Et c'est pourquoi c'est dans des zones où l'état n'est pas reconnu, où l'anarchie est de mise, où la tendance mentale, religieuse, intellectuelle est au désordre, c'est là où Al-Qaïda a pu s'implanter. C'est là où tout le grand banditisme a pu s'installer. Donc il faut que les citoyens, les populations de cette zone cessent d'alimenter les groupes armés, les groupes idéologiques, les groupes confessionnels réfractaires à la notion d'État, à l'ordre, à la démocratie et aux droits humains.
Biramda Abeid, président d'IRA Mauritanie, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste. Son engagement contre l'esclavage lui a valu l'an passé le prix des droits de l'homme de la ville allemande de Weimar. Droits et libertés, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté votre attention. Au micro, Marie-Ange Pierre.